Grand Angle, les reportages grand format du magazine QI. Ligne de vie, un reportage de Morgane Kilikine et Jean-Christophe Attard.
L'immeuble était vivant, animé, la terrasse était toujours un lieu de vie, on faisait des tas de trucs. Quand les femmes ont commencé à travailler, les portes sont fermées.
Avant, vous entendez les gosses jouer, crier, chanter, bon. Les gens aussi chantaient, ou les maçons sifflaient sur leurs échelles. Il y avait une ambiance joviale, tandis que maintenant, c'est bientôt le monde du silence.
À 24 ans, je me suis mariée. Toujours avec un paysan. Et après, c'était différent. On travaillait dur, ça, c'est certain. C'était la misère noire. Ceux qui sont nés dans les années 20, nous avons été la pire des générations.
Nous, c'est dans la difficulté qu'on crée notre bonheur. Surtout dans le rapport garçon-fille. C'était très intense. Quand on se retrouvait, c'est la conjonction de quelque chose de magnifique.
Que diraient les anciens du monde d'aujourd'hui et de celui de leur enfance et de l'amour et du bonheur, de la vie en général? Et s'il suffisait d'aller le leur demander? Donner la parole aux anciens, c'est ouvrir un livre, un gros bouquin épais qui tient tout à la fois du roman, de la chronique, de la biographie, et de la fresque historique. Et à mesure que se déroulent les chapitres, c'est voir la petite histoire se mélanger à la grande, les anecdotes côtoyer les grands faits, le micro et le macro marcher côte à côte. Aujourd'hui, ils frôlent ou tutoient les 100 ans, et ils ont tout vu, tout vécu. Les pires conflits armés et les années folles, l'explosion de l'industrie et la désertification des campagnes, la transition aussi rapide que violente d'une époque à une autre. Génération postée entre l'ancien et le nouveau monde, témoins et observateurs d'un siècle charnière, ils sont les derniers à pouvoir raconter ce que les plus jeunes ne font qu'imaginer et idéaliser. Au crépuscule d'une vie longue et bien remplie, ils posent un regard sur le passé, le leur et celui de leur époque. Une analyse sans concession ni complaisance, pas plus qu'ils n'en ont d'ailleurs pour la société d'aujourd'hui. Dans ce quatrième épisode, nous sommes allés à la rencontre de Jean-André Aquavive, un bastier de 92 ans qui nous reçoit dans un café de la place Saint-Nicolas, où il a ses habitudes et ses amis. Le temps d'une discussion à bâton rompu, il évoque ses souvenirs d'enfance en région parisienne et dans le Nioul, son passé de combattant en Algérie, ou encore sa vision de la société corse et de son évolution.
Je suis né au village juillet 32, mais j'en suis parti, j'avais 40 jours. Et j'en suis revenu, j'avais 8 ans. Parce que, comme tous les Corses, mon père, ancien combattant, grand blessé de guerre, il avait droit à un emploi réservé, donc nous étions dans Lyon. À Joigny dans Lyon, exactement. Comme il faut le dire, il a eu la chance d'avoir un poste où ça s'est très bien passé pour lui. Il avait fait pratiquement fortune, quoi. Parce qu'il était cantinier de l'armée. C'est-à-dire, j'ai grandi dans une grande surface. La clientèle était l'armée. Joigny dans Lyon, c'est la base arrière de l'armée française qui commençait à s'installer parce que la guerre allait venir. Tous les ans, on venait en Corse. Alors, j'ai quelques petites images de. Parce que c'était le train, le bateau. Et mon village, était. Ma connaissance de mon village, elle est liée à la sensation du rural que j'ai eue comme gosse. Je n'ai pas accompagné mon village. J'ai reçu en pleine patate quand j'avais 6-7 ans, à l'âge où on commençait à avoir conscience des choses, quoi. Donc mon village, pour moi, c'est le mulet de mon grand-père, c'est les femmes qui allaient à la fontaine, on appelle ça Azette, toujours habillées en noir, parce que 36-37, c'était pas très loin de 14-18, quand même à l'autre, il y avait plus de 80 morts à peu près. Un village qui a beaucoup souffert de la guerre, quand on est jeune. Donc, toutes les mères, toutes les tantes étaient en deuil. C'était des femmes en noir, avec le foulard jusque-là. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est le village. et je repartais. À partir de 38, je me souviens du regret de repartir. Si c'est temps de quitter les copains. Voilà, et puis après, bon, tant que c'est en 40, on me réveille un beau matin, vers 4h du matin, ma tante, je revois encore une tante qui se demande ce qui se passe. Et on descend ces ruelles à 6h du matin, et on arrive sur le pont qui avait été bombardé, plein de cadavres. Et les chevaux, je revois ces chevaux percherons, parce que c'était des colonnes des gens du Nord, des Belges, des gens du Nord qui fuyaient. Quoi. C'est la fameuse exode que vous avez vu certainement plus d'une fois en film. Donc là, je me souviens avoir marché sur des morts, avoir vu des chevaux envoyer des cadavres dans le fleuve. Et donc, ça, c'était une autre question. Donc, celle de mon voyage personnel de ma famille jusqu'à Bordeaux à pied, en gros, hein. Bon, c'est l'exode. Quoi. Bon, ben après, c'est la Corse hein, en 40. On rentre l'été au village. En septembre, mon père a le souci de ses enfants. Donc, nous sommes les Niolins, nous avons une assise sur la Balagne, sur Calvi, le philosophe qu'on appelle, en Galirie. Donc, mon père a loué un appartement à Calvi et j'ai commencé ma scolarité à Calvi. Et comme je pensais qu'à ça, au bout d'un mois, j'ai dit à ma mère, non, je voudrais aller à l'école au philosophe chez mon grand-père. C'est l'homme que j'ai le plus aimé de ma vie, quand j'y pense. Et j'ai passé une année avec lui. Et là, j'ai connu les mulets, les chèvres, la traite. Donc, pour moi, la Corse, ce n'est ni ma vie de bassier, ni ma vie d'étudiant, ni ma vie de docteur chirurgie dentaire. Ma Corse, c'est le rural. J'arrive, j'ai 8 ans, mais je ne sais pas parler un mot de Corse. J'entendais mes parents parler Corse. Mais je sais, je faisais n'importe quoi. Des mots en A et en U. Mais... Et donc, j'ai demandé aux enfants de mon âge, qui étaient bergers, à l'époque, c'était que des bergers. Il y a des enfants qui étaient des petits bergers, ils se foutaient de moi, ils se moquaient de moi. Et moi, j'insistais. Et au bout de 3 mois, je commençais à prendre le Corse. La passion, j'ai toujours eu la passion du Corse, de la Corse. Donc, pour vous dire, je suis donc descendant de bergers, niolin, et donc, je n'ai pas échappé à la règle, j'improvise. Hein. Enfin, je tiens à me répondre. Et donc, à 16 et 17 ans, j'improvisais avec les pères de ces petits bergers qui m'avaient emmerdé. Et j'improvisais, j'ai improvisé longtemps. C'était aussi une de mes passions. De l'extérieur d'un citadin et dedans, je suis berger.
Comment le jeune Jean André perçoit-il la période si particulière du second conflit mondial ?
En Corse, ça nous rattrape en 42. Donc, l'été 41, on est monté au village. Et septembre 41, on s'est installé à Bastia. Donc, j'ai commencé au lycée en 9e. J'avais 9 ans. Et en 42, la guerre, on entendait parler de la guerre, mais on était ici, c'était... Puis nous, on avait connu déjà presque la guerre, ça fait que pour nous, c'était le paradis, ici, pour mes parents, pour moi. Hein. Donc en 42, un bon matin, on voit une ligne noire là-bas. On s'est levé pour aller à l'école, comme d'où. Et c'était des bateaux, des voiliers italiens, avec quelques torpilleurs. Ils ont débarqué le matin à 7h ici. Pour moi, la guerre, c'est comme ça jusqu'en 1943. Et en 1944, on repart au village, parce que c'était la règle tous les ans. Fin juin, on monte au village. Et là, en septembre, on ne revient pas parce que les Américains qui avaient débarqué occupaient les appartements. C'est-à-dire, l'immeuble où je suis, c'était une caserne. Et donc, on a été obligé de rester au village. Pour mon plus grand plaisir, parce que je n'étais jamais resté au village. De juin 1944 à l'été 1945, c'était au village. Et là, j'ai connu aussi toutes les phases de la vie du village. On avait 3 chèvres que je gardais, des matelas sur les chiennes, parce que, comme tous les pâtres, je ne suis pas berger, je suis descendant de pâtres. On suit les chèvres, on n'a pas de propriété, on n'a pas de terrain. Donc, au village, on n'a pas de terre, pas de maison. J'ai connu et l'école du village, avec mes copains bergers. Ah, j'étais le premier. C'était facile. Hein. C'était facile. Ça ne m'a pas arrangé d'ailleurs. Ça ne m'a pas arrangé. Il y avait des Italiens avec mon père. Et lui, il avait été berger jusqu'à 20 ans. Il était parti à l'armée comme tous. Il avait été berger. Donc, avec mon père, comme on était sur Galiria, sur l'hiver, c'était 9 mois sur la plaine et 3 mois dans la montagne. Donc, toutes les affaires, toute la farine, le fromage, la charcuterie étaient en bas. Donc mon père, qui était un grand stratège, pour éviter les Italiens qui étaient au pont de Castille, là. Le pont, il tenait toute la vallée, plus personne ne pouvait monter, si vous connaissez le coin. S'il tient le pont, vous ne passez pas, et plus rien. Donc, pour contourner l'obstacle, mon père a demandé à trois mulets, et on est descendu par la route de la Transhumance, je ne sais pas si vous la connaissez. Et là, avec les mulets, descendre par là, charger les mulets et remonter. C'était magnifique pour moi. Hein. Je découvrais, en fait, hein, mais je découvrais tout en rentrant là-dedans. Hein. Ça a duré un an, c'était pour moi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, oui.
En quoi la guerre a-t-elle changé les mentalités, le mode de vie des Corses?
Brusquement, elle a amené les gens à dire, je pense, hein, parce que dans le village, c'est évident ça, à dire, oula, il faut vivre. Hein. Il y a eu un relâchement dans les mentalités et dans la façon de faire, de vivre. Hein. Moi, je vais chez nos villages, en 1945, donc, la fin de la guerre. Il y avait un gansing en plein village, avec toutes les nuits, c'est le tango. Tango, les voisinages ne disaient rien. Hein. Les braves femmes, j'ai jamais entendu dire une femme, « Oh là, c'est plus, j'ai pas dormi, non, non. » C'était un besoin de retrouvailles avec la fête. Hein. Ici, par exemple, ici, c'était un café d'officiers américains. Quelques civils pouvaient rentrer, mais c'était l'occupation. Hein. Ça grouillait, surtout avec les Américains. Les Italiens, moi, les Américains, oui. Donc cette vie-là, un mélange de fête et de deuil, de difficultés, oui, c'est indéfinissable. Ça s'est un peu éloigné à partir de 1947-1948, on a commencé à avoir des magasins avec des ampoules, alors qu'avant c'était sombre. Hein.
Après la guerre, vient ensuite la vie d'étudiant à Marseille, puis rapidement la mobilisation pour un nouveau conflit qui se prépare sur l'autre rive de la Méditerranée.
Mais moi, je vais jusqu'au bac. Et puis après, je pars faire l'étudiant à Marseille. Il faut parler du Corté. Pire. À l'époque, donc, je débarque à Marseille en 1951. Il y a une cité universitaire, il y a 70 chambres pour toute la Provence. Et les particuliers nous louaient des chambres sans fenêtre, avec une lucarne, des trucs, un cagibi. Quand ils nous louaient... Ça fait qu'on avait juste le lit, ça fait qu'on passait notre vie dehors. Et notre vie dehors, c'était quoi? Comme il n'y avait pas de café, c'était les bars corses, et les Corses, la plupart, étaient des voyous. Tous les grands voyous de Marseille étaient nos amis. On s'embrassait, on faisait des soirées ensemble. Marseille, c'est ça, c'est cette vie. C'était un mélange de soucis de faire des études pour ceux qui étaient très sérieux. Et moi, personnellement, je n'étais pas très sérieux. Ça fait que ça me ramène à mes départs où j'étais un brillant. Et après, j'ai lâché rapidement. Hein. Alors, pas sérieux, donc, une vie d'étudiant bidon, quoi, comme on dit. Hein. Donc, la fête, la sortie. Hein. Comme j'étais pion, et qu'à l'époque, les choses changeaient tout simplement, qu'il y avait la guerre d'Algérie qui s'était installée, donc, et tout le monde y veillait, et donc, on était sursitaire. Mais sursis, on n'avait droit que jusqu'à 25 ans. Hein. 22, 23, 24 ans, moi, j'ai dit, ils m'ont oublié, à 25 ans. 25 ans passés, je dis, ils m'ont oublié. La 26e année, appelé. Et j'ai fait l'Algérie, j'ai fait la guerre d'Algérie. C'est aussi une autre page de ma vie très particulière que j'ai fait et que je ne regrette pas d'avoir fait. Donc l'armée, hein. Et on m'affecte au service de santé. Je reçois la lettre de départ 3 mars 1958. Saint-Joseph, le bateau, le Fréjus, la coloniale, infirmier colonial. Je verse dans un autre monde que je ne connaissais pas, alors que j'avais eu petit, puisque je vivais dans une caserne. Donc j'en ai vu des soldats, des noirs, c'était aussi la coloniale, où c'était des noirs. Donc, mais là, ce n'était pas pareil. Hein. Du jour au lendemain, surtout, là, l'armée, elle vous absorbe, il n'y a pas de défense. Hein. Ou faites ce qu'il faut, ou alors ça va mal. Hein. Et donc, fait ce qu'il faut. Alors, petit soldat, quoi, vivre, hein, dans la bouse, que maquillé, de noir, mitraillette. Entraînement pour départ à AFN, disait-on, en Afrique du Nord. Et au bout d'un mois et demi, le capitaine me convoque. Je dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je vois un capitaine un peu gêné. Ah, quoi, il va alors là. Bon, alors, on a reçu votre dossier, alors, vous êtes sursitaire. Hein. Alors là, maintenant, vous avez commencé, il faut finir votre stage départ à FN. Hein. Et puis, je ne sais pas, parce qu'il y a une complication, vous êtes affecté au service santé colonial. Mais vous êtes appelé. Et dans le service santé colonial, il n'y a pas d'appelé. Il dit, écoutez, à la fin du stage, à la fin du service, à la fin de 3 mois de départ FN, à Marseille, vous réglerez ça. Voilà. J'avais compris que c'était impossible. Et donc, affecté au Faro. Et je vais au Faro. Au Faro, c'était donc, nous étions une dizaine. C'est l'école de médecine, des officiers médecins. Le temps passé, moi je savais, c'était impossible. Il n'y avait que moi qui aurais pu éviter l'Algérie si j'avais dit au colonel, mon colonel, je ne voudrais pas partir. Et lui, il attendait que je lui dise. Mais moi, je ne sais pas. Parce que la connerie, parce qu'un jour, on bouffait tous ensemble, 8 ou 10, nous étions, il y en a un qui s'est mis à pleurer parce qu'il allait partir en Algérie. Et moi, quand un bon corse, je dis, mais alors, tu pleures pour partir, tu n'as pas honte devant tous les autres. Je me suis enfermé dans mon courage bidon. Après, je n'ai pas pu demander. Donc, et le colonel, le savait, ça va y arriver. Parce qu'on faisait 12 mois en France et le reste là-bas. 28 mois. Et un beau jour, on prend le bateau, on débarque en Algérie le lendemain matin, à Alger exactement, et à 11h du matin. Nous étions 5 ou 6 000, hein, les bateaux entiers. Hein. Et les mecs arrivaient, c'est l'armée, c'est ça. Hein. Le camion, les GMC, s'embarquaient. Ces types, ils arrivaient avec la liste. Et finalement, on est resté à 10 sur les quais. Et comme sur ces terres, j'étais plus âgé, et comme à l'armée aussi, il y a un principe de base, le chef, c'est des galons, mais après, c'est l'âge. Et donc, j'étais devenu le chef. Et je commençais à m'inquiéter. Il était 7 heures du soir. Débarquer en Algérie, c'est la guerre pour nous. On pensait, parce qu'après on s'habitue à tout, on pensait qu'ils étaient là derrière le mur pour nous tirer dessus. Hein. On jouait la belote sur les valises. Bon, 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 bon. Et 7h, 8h du soir, hein, tard. Hein. Personne. Et nous avions encore oublié, là, nettement. 8 jours dans un camp, je ne sais pas trop, à quelques kilomètres d'Alger. Puis après le train à Alger, de rester en Constantine. Je suis devenu un combattant, quoi. Parce que l'armée, il y a plusieurs... En Algérie, si vous voyez, on était 500 000. Chez 500 000, il y avait 30 000 combattants. Le reste, après, il faut des soldats partout, dans les hôpitaux, dans les bureaux, dans les casernes. Et après, les combattants, et j'ai fait partie des combattants. Voilà. Donc, je ne vous en parlerai pas, mais c'est pas drôle. C'est la guerre, quoi. C'est une guerre spéciale, une guerre très particulière.
Au sortir de la guerre d'Algérie, c'est le retour en Corse et l'entrée dans la vie active. C'est aussi l'éveil d'une conscience politique qui ne le quittera jamais.
Donc je reviens. Mon copain qui était directeur de la sécurité sociale, d'ailleurs, il dit, tu commences à te faire mieux. Il faut bouger-toi un peu. J'ai dit, et si tu faisais dentaire, c'est pas long, 5 ans, tu as tellement fait, tu peux rester encore 5 ans. Ça. Et voilà, c'est parti comme ça. J'ai dit, tu as raison. Et là, je peux vous dire que l'Algérie m'a servi. Hein, parce que je connaissais tout par cœur. Hein. Mon plaisir dans les examens, c'est de dire comment je vais leur dire tout ça. Voilà, et je me suis retrouvé dentiste. Donc, à Marseille un peu, puis après je me suis installé ici, sur le boulevard, jusqu'à 90 ans. Bon, j'ai connu ma femme qui était bastiaise. Hein. C'était une belle femme, gentille, qui est morte malheureusement d'un cancer. Voilà, et on a eu Jean-Félix. À partir de 16 ans, j'ai occupé Jean-Félix. À midi, c'était une boîte de sardines, fromage, un peu de camembert et une pomme. Et tu as mangé, oui, je veux savoir. Du pain. J'achetais le pain. Il a grandi comme ça, il a eu du mérite. Parce qu'il a grandi avec moi. On a grandi tous les deux, on a passé notre vie ensemble. Ça nous a beaucoup, beaucoup lié pour tout le reste aussi. Hein. Dès 15 ans, c'est devenu un militant. On militait à fond, lui et moi. Il a commencé à 16 ans, il a commencé en 89. Il a commencé avec les manifestations en 89, il n'a pas arrêté. Donc moi, j'étais déjà depuis... J'ai commencé en 61. Après, quand je suis revenu d'Algérie, j'avais compris là-bas beaucoup de choses. J'en avais vu, j'avais touché avec les yeux là-bas, je savais ce que c'était que la France. Alors que j'étais un combattant loyal, j'ai le jeu maximum, j'étais un bon soldat français. Mais en rentrant, j'ai le bobinet, et il y a deux trucs qui m'ont fait verser à fond dans le régionalisme de l'époque, membre fondateur de tous les mouvements, hein, commencé en 61, tous. Je commençais par le Cédic, j'ai fait tout le mouvement. C'est deux trucs. C'est le souvenir de ce que la France, en tant qu'État français, faisait en Algérie pour ces braves gens. N'importe quoi. Et ici, d'un coup, ça m'est venu, je pense encore à mon grand-père, qui était pâtre, et qu'on poursuivait parce qu'il ne payait pas, qui avait 300-400 chèvres, parce qu'il ne payait pas ses impôts. comme beaucoup de pas, les pâtres, les gendarmes, surtout pas en haut, ils ne montaient pas, mais en bas, en galère, il y a les gendarmes, ils passaient leur temps à courser les pauvres gens qui étaient dans le maquis, qui avaient 300 chèvres pour nourrir 7 et 8 enfants, qui n'avaient rien à les mains, rien dans les poches, qui n'avaient que... C'était la survie, hein. Et c'était la survie chez nous, là-bas. Tout est, il n'y avait pas de... Il restait juste le sucre et le café, le reste, c'était... Je me suis dit, il y a un problème. Et ça, j'ai commencé en quelques mois. Non, 60, je suis à Calvi. Et premier coup de bâton, c'est 61, l'affaire d'Argentine. Les essais atomiques d'Argentine qui étaient à 5 km à vol d'oiseau de Calvi. Même pas, il y avait 4 km à vol d'oiseau. Ils allaient faire des essais atomiques. Alors, j'ai dit, ça va pas. Et mes premiers coups de bâton, j'ai donné sur... C'était pas des CRS, c'était... Garde mobile français avec le casque bleu marine. Voilà, c'est commencé comme ça. Après, ça s'est enchaîné tout le temps. Hein.
Au fil du siècle, Jean-André Acquavive a-t-il vu la société corse évoluer? Se sent-il encore en phase avec elle?
Perdu pied, là, puis maintenant 4 ou 5 ans, 7 ou 8 ans. Je ne sais plus quoi dire de cette société. Je regrette énormément ce que j'ai connu enfant, énormément. Ça n'aurait jamais dû disparaître. Dans le comportement des gens, hein, peu importe le respect de l'autre, le rapport garçon-fille, différent, bon, qui n'existe plus. Et tout ça, au fil du temps, ça s'est transformé, et toujours dans le mauvais sens. Toujours avec une perte de quelque chose, à tel point que là, maintenant, je ne comprends plus rien. Quoi. Ce changement en tout, d'absorber tout ce qui n'était pas naturel pour nous, qui était peut-être en fait, mais qui, dans notre éducation, notre structure, pas normal. Tout ce qui n'était pas normal, nous, devenait normal. Et donc, on a fini. Là, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas, bon, il y a eu la drogue, les trucs, ici et là. Même en famille, la perte de l'autorité paternelle, la fille qui reçoit le garçon chez ses parents, qui maintenant sont banalités, qui pour nous, c'est des chocs, des micro-chocs. Voilà, si vous voulez, j'ai grandi en ayant toujours ce sentiment, cette sensation que j'étais victime de micro-chocs. Et donc, tous ces trucs qui s'ajoutent, après, portable, tout ça, changement de vie, quoi. Voilà. Pour moi, la Corse, elle a basculé à partir des années 55. Avant 55, c'était la Corse d'avant. Les femmes en noir, les bergers, le respect. Moi, j'ai toujours dit « vous » à mon grand-père. Je n'ai jamais tutoyé mon grand-père. Je sais pas, vous voyez par snobisme. C'était « vous oh, ». Boy, ma mère disait « vous » à son père. C'était impossible de dire « tu ». Ce n'était pas possible. Nous, c'était notre « vous ». C'est le « vous », du respect maximum. Hein. C'est le vrai respect. Voilà, donc... C'est une marche vers autre chose qui est différent, que je ne peux plus juger parce que je ne suis pas de ce temps. Je ne suis pas de ce temps. Je suis un observateur d'un changement qui, pour moi, m'époustoufle.
Après les guerres, les deuils, le changement de société, quelle définition du bonheur peut nous donner le nonagénaire?
On ne peut pas globaliser. Ça, après, c'est l'humain qui reprend dessus. Il y a des gens qui ont une vie plus ou moins heureuse, ou qui savent la rendre heureuse en acceptant certaines choses, qui s'adaptent. Et puis, il y a ceux qui prennent en pleine patate les conneries. Non, ça, c'est la société, globalement. C'est pas là-dessus que je pourrais porter un jugement différent que de ce qu'on porte dans toutes les sociétés, avec tout le monde. Le bonheur, ça. Je ne sais pas si ça se construit ou si vient. Il est où le bonheur? Le bonheur, ce sont des laps de temps où on est en pleine étude de quelque chose. Mais ça peut être une réussite à l'examen, ça peut être un amour furtif, hein, ou même un amour sérieux qui dure un peu mais qui s'en va. C'est lié au temps. Ce sont des morceaux de vie qui sont pleins du bon côté. Oui. Il m'est arrivé d'être heureux. Ben.
Et la vie de couple, la vie amoureuse dans tout cela?
Quand j'ai mis au trou, j'ai dit, ma chère, il n'aura plus. Hein. Il n'y a plus, il n'y a plus. Pas possible. Ça, c'est l'homme corse. C'est notre époque. C'est pas par m'as-tu vu ou voilà, c'est truc, c'est difficile à expliquer. C'est tout, il y a un tout de tout. Il y a un tout de tout dans, le, dans, dans la joie, dans le bonheur, dans le deuil, dans le truc. Dans rien. J'ai eu des petits bonheurs intenses. Je suis sûr que maintenant, on ne peut pas les avoir, ces bonheurs, parce qu'ils ont la facilité. Nous, c'est dans la difficulté qu'on crée notre bonheur. Surtout dans le rapport garçon-fille, c'était très intense. Quand on se retrouvait, c'est... malheureusement, ça ne durait pas des années, mais le temps que ça durait, bien, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas possible qu'il puisse avoir ça maintenant, parce que c'est presque... Nous, c'était une victoire, tant pour elle que pour moi. C'était la conjonction de quelque chose de magnifique. Vous l'observez, mais pour en tirer des conclusions globales, hein, c'est des micro-chocs, des micro-alertes, des micro ce que vous voulez. Quoi.
Quel regard le militant nationaliste de la première heure porte-t-il sur l'âme corse? Garde-t-il l'espoir d'un avenir plus radieux pour son île?
C'est comme tout. C'est comme quand on parle de l'homme corse. Moi, les Corses, je les connais. Ougours, la Corse. Je compare tout ailleurs, peut-être même pire. Parce que le Corse, il a, pour moi, hein, si j'allais dire ma réflexion, notre vécu, à tous globalement, notre vie d'homme, de femme, est quand même en phase avec la grande histoire. Nous avons été trimballés au cours des siècles. Et donc, psychiquement, nous sommes trimballés. Nous ne sommes pas des entités blanc-bleu, non. Il y a des morceaux de haine, des morceaux de lutte, des morceaux de peur, des morceaux de défaite. Quand on réfléchit beaucoup, quelquefois confronté à des situations particulières, on peut être comme j'ai fait à l'armée. L'armée des lions qui devenaient peureux, des peureux qui devenaient lions. C'est l'homme. Hein. Et le Corse en particulier, il est plein, c'est une mosaïque ambulante. C'est pas un agglomérat, c'est un agglomérat ambulant, le Corse. Nous sommes des bipèdes agglomérés. Nous avons plein qui nous viennent d'ailleurs, de nos parents, de notre histoire, de notre situation, de notre contexte. Ça fait que ça nous est resté, et nous sommes, je pense, les Corses, nous sommes très particuliers, on dit ça vite fait, mais c'est vrai, très particuliers, parce que nous avons une démarche très, très, très particulière, chacun de nous l'a eu. Même s'il ne le sait pas, s'il ne se rend pas compte, il a été par ses parents, par ses relations, par son éducation, par sa formation, par son vécu, par tout ce que vous voulez, c'est très compliqué, le Corse est très compliqué. C'est pour ça quand on dit « Ougour, c'est courageux, mon cul, il est comme il peut ». Et chez nous, c'est plus qu'ailleurs, je crois. Quoi, du moins ailleurs que je parle du français moyen. Hein. Nous sommes très différents des français moyens. Eux sont cartésiens, globalement. Et nous sommes des poètes, des rêveurs, des artistes. Nous ne sommes pas cartésiens. Nous sommes méditerranéens, pas cartésiens du tout. On dit les choses, on avance, on marche à vue. On est en raison des fois, mais on marche à vue. On n'a pas cette structure du cartésien cubique qui crac. Non, on n'est pas comme ça. C'est mon sentiment. Hein. Non, voilà. C'est comme une femme pour nous, la Corse d'avant. C'est pour ça que nous sommes intransigeants sur la Corse qui a transformé, qui a changé, qui nous échappe. Parce que bien sûr, on s'accrocherait à un passé qui n'existe plus. Mais cette appartenance à des gens, parce que ceux qui avons commencé, c'était plus sentimental qu'institutionnel ou qu'économique. C'est le sentiment de gens qui étaient autrement, qui brusquement ont dit « mais les patates sont plus chères ici et les routes sont plus défoncées ici qu'ailleurs. Pourquoi ?» On a commencé comme ça et puis après on a passé autre chose tout doucement. Donc cette lutte qu'il y a maintenant, bien sûr, les nouveaux ne le savent pas. Ils l'ont en eux, ils l'ont entendu dire. Ce qui fait notre différence, elle est là, la différence. Je ne sais pas s'il y a un Vendéen qui arrive à Paris, qui après est devenu fonctionnaire, qui a des petits-enfants fonctionnaires, si ces petits-enfants fonctionnaires parlent de la Vendée comme nous parlons encore de la Corse. Même les jeunes de maintenant, même mon petit-fils parle de la Corse différemment, parce qu'on n'est pas détaché, c'est une suite, c'est un fil qui fait que, par à coup, des petits trucs, des petits détails significatifs qui vous rendent un peu différents, nous sommes différents, du moins de mon point de vue, mais... Sur le plan support humain, nous sommes en minorité chez nous. Il est pour nous impossible, et pour ceux qui sont en face, d'espérer nous voir. Ils le savent, même ceux d'en face le savent. Nous, c'est. Mais ceux d'en face, ils, on ne va pas gagner avec ces gens-là. Ils ne gagneront pas. Parce que nous sommes différents, parce que nous sortons d'une empoignade énorme qui n'était pas juste, et que l'humain, de façon générale, globalement, l'histoire des hommes est faite... un peu de justesse. Voilà. Je crois que la Corse sera autonome. C'est impossible. En plus, on ne peut pas faire remonter les fleuves. Maintenant, si vous me dites Est-ce qu'elle sera autonome avec les Corses ou avec les Dupont ? Ce seront peut-être les Dupont, mais elles seront autonomes. Ce sont deux choses différentes. Hein. Les Dupont et Durand, que, s'ils arrivent, on n'est pas loin, ils en font venir 4 à 5 000 par an. Donc, ils mettent un paquet, les mecs. Hein. Ne croyez pas que ce soit du hasard. Hein. Ce n'est pas du hasard. C'est voulu. Ces gens-là, un jour, seront majoritaires et ils demanderont l'autonomie. Et ils l'auront. Ce n'est pas le problème.
Quatre profils, c'était, croyait-on, l'assurance certaine de pouvoir dégager des transversales, des tendances, des grandes vérités qui auraient balayé toute une époque et toute une génération pour lui tirer le portrait. Au fil des rencontres, il a en réalité d'abord fallu tordre le cou à cette idée préconçue. La société dans laquelle ils sont nés n'était certes pas encore devenue celle de l'hyperconsommation et du divertissement de masse. Les sollicitations et les possibilités n'étaient pas celles d'aujourd'hui, et pourtant, les existences et les parcours ne sont pas des copier-coller les uns des autres. Si l'idée de pire génération est subjective, elle est en tout cas celle du grand écart, pour ne pas dire de l'écartèlement. Élevée dans un cadre rigoureux qu'elle a vu se désagréger, passer de trop peu à trop deux, elle a accompagné un siècle particulièrement remuant. Aujourd'hui, forcément un peu déconnectée, elle n'en demeure pas moins une force témoin, postée comme en sentinelle aux portes d'un monde révolu qui a encore des choses à nous apprendre, si on lui prête l'oreille. Grand Angle, les reportages grand format du magazine Cui. Ligne de vie, un reportage de Morgane Kilikin et Jean-Christophe Attard. Voix off, Jean-Christophe Madzone de la Compagnie La Cible. Réalisation Jean-Christophe Attard et Suzy à la Mercerie pour l'agence Totem.